Section 4. En arrivant de Chambéry à Lyon, j'étais porteur d'une véritable lettre de belles-lettres au fond, avec cette différence pourtant que je me doutais à peu près de son contenu. Me semblait dur pourtant d'en être chargé moi-même. J'eus un moment l'envie de la mettre en morceaux, mais je ne le fis pas, parce que je pris une espèce de plaisir à affronter l'orage. D'ailleurs, aujourd'hui ou dans 8 jours, il faut toujours que cela arrive, me disais-je. Lorsqu'on capitule avec un mouvement de crainte ou de répugnance, on devient bientôt pusillanime et incapable de prendre un parti. Je rougis en moi-même de mon hésitation et remis bravement la lettre à mon père. Certes, messieurs les frénologues qui ont avancé que j'étais né avec la protubérance de la fermeté, se sont grossièrement trompés. J'avais au contraire le caractère le plus faible, le plus inconstant, le moins prononcé qu'il soit possible de voir. Élevé avec tendresse, heureux de l'affection de ma famille, j'eusse été toute ma vie l'homme le plus résolu et le plus flexible sous les influences étrangères, le véritable bon enfant de Paul de Kock. Ce sont les impressions d'enfance qui ont changé ma nature première en me persuadant que privé des caresses de ma famille en but à ces mauvais traitements, je n'avais pour ne pas être brisé que la ressource de m'armer d'un cœur d'airain et d'une fermeté à toute épreuve. Je m'en suis convaincu par les fréquents combats que j'ai eu à soutenir avec moi-même pour y parvenir et par la continuelle surveillance que j'ai exercée sur mon âme. À cet égard, comme à beaucoup d'autres, je me suis fait ce que je suis. La nature n'avait rien fait pour moi. Je m'armais donc de résolution pour présenter à mon père la redoutable épître qui devait le frapper par tous les endroits sensibles à la fois. Elle ne lui apprenait rien moins que le redoublement de mes incartades pendant le temps que j'étais resté au cachot, et lui présentait en même temps un compte d'une 50aine de francs de portes brisées et serrures forcées pour faciliter mon évasion. Il y a des moments où on a tant à dire que l'on ne dit rien. C'est ce que fit mon père. D'ailleurs, il pensa que, puisque j'allais rentrer dans le monde, je n'avais plus besoin de morale de collège. Il appuya un peu que sur les 50 francs qu'il payait, il est vrai, assez mal à propos pour le peu de plaisir que j'avais eu à les dépenser. Il m'avertit que dès le lendemain, il me conduirait chez un avoué de ses amis pour y apprendre quelque peu de jurisprudence et de procédure, car il me déclara dès ce moment que son intention n'était pas de me faire faire un cours de droit, ni de me destiner au barreau, et que s'il voulait me voir acquérir quelques connaissances en chicane, c'était absolument que pour qu'elles me fussent utiles plus tard dans le commerce auquel il me réservait. Cette déclaration me fit beaucoup de peine. Je me sentais assez de capacité pour me distinguer sous la toque. J'accusais de nouveau mon père d'injustice dans le fond de mon cœur, mais j'avais tort en ce moment. D'après ce que j'ai vu depuis, mon père était déjà gêné dans ses affaires. Il se voyait dans l'impossibilité de fournir aux dépenses qui nécessitaient cette nouvelle éducation. S'il me l'eût dit, au moins, il nous aurait peut-être épargné à tous les deux bien des malheurs. Cependant, j'avais de la peine à faire pardonner mon genre de vie à ma mère. Ce n'est pas qu'elle fût bien scandalisée de mes équipées de collège. De la part de mon frère, elle en eut plutôt ri de bon cœur. Mais il y avait en moi je ne sais quoi qui lui déplaisait. Aussi avait-elle vu venir avec peine la fin de mes études, dans la crainte d'être forcée de se rapprocher de moi. Et avant mon retour de Chambéry, elle avait prié mon père de s'arranger de manière à ce que je ne restasse pas à la maison. Il fut donc décidé, contre l'usage ordinaire, que je coucherais dans une petite chambre qui dépendait de l'appartement de l'avoué chez lequel j'allais travailler, et que je serais en pension chez un traiteur voisin de l'étude, et où mangeaient également beaucoup de clercs. Ce parti, adopté à mon égard, à part l'injustice que je voyais toujours dominer, me convainc beaucoup en m'exilant de nouveau du toit paternel sous lequel je me plaisais fort peu. Mais voilà donc pour la première fois lancé dans le monde. J'y fis bien triste figure à mon début. Pendant les 6 premiers mois, j'interrompis toute espèce de lecture et d'étude. Fort de mes réflexions et de la connaissance approfondie que j'avais d'histoire, je me livrai tout entier à mes observations pour analyser les rapports qui pouvaient exister entre les hommes passés et ceux que j'avais sous les yeux. Je voulus m'assurer par moi-même si le monde était si hideux que me le représentait l'histoire. J'en reconnus tous les tableaux. Partout fourberie, égoïsme, partout amour de l'or, partout intérêt personnel, se cachant sous le masque du désintéressement. Ô Molière, toi qui peignis à de si larges traits ton Tartuffe religieux, que n'as-tu achevé tous les tableaux de l'hypocrisie qui existe chez l'homme pour toutes les vertus? Car en général, c'est de celles qu'il pratique le moins qu'il cherche le plus à faire parade. Pendant tout le temps de ces premières observations que j'avais entreprises que pour porter un pied plus assuré sur le terrain du monde, je fus tellement dégoûté des résultats que j'obtenais chaque jour que je me livrais à la mélancolie et presque au désespoir. Je m'abrutis insensiblement et devins en quelque sorte un véritable automate, n'ayant plus l'air de faire partie de la société. Ceux qui m'avaient connu dans le courant de mes études étaient étonnés de ce changement. D'autres me prirent même pour une espèce d'idiot. Je me souviens même à ce sujet d'une particularité assez bizarre. Mon père avait assuré à l'avoué, chez lequel il m'avait placé, que j'avais obtenu beaucoup de succès au collège. Quand il m'eut vu pendant quelque temps, il en fut tout étonné. « Est-il bête ?» disait aussi parfois un autre avoué, qui associé avec lui demeurait dans le même appartement et avait la même étude. Il me regardait presque jamais sans hausser les épaules. En effet, lorsqu'il m'expliquait quelque chose, j'avais l'air de ne pas le comprendre, et quelquefois je ne le comprenais réellement pas. Je fixais sur lui des yeux hébétés. Même mon imagination était à 100 lieues de là. Un jour, mettant l'adresse pour Mézières, il demanda quel était le département. Personne ne répondit. Oh, nos clercs n'étaient pas forts sur la géographie. Moi, poussé par un mouvement machinal, sans presque y songer, sans lever la tête, je dis « Ardennes ». L'avoué ouvrit un dictionnaire géographique, et ayant trouvé la confirmation de ce que je venais de dire, il fit un saut de surprise. Et me regardant, comme je pense que Balaam dut regarder sa monture lorsqu'elle s'avisa d'entamer la conversation avec lui, « Tiens, dit-il, comment est-ce qu'il peut savoir ça ?» Il y avait vraiment bien d'autres choses que je savais qu'il ne savait pas. Lassé de toutes les découvertes qui avaient payé mes recherches, je fis enfin une réflexion judicieuse et adoptai un parti plus raisonnable. « Je connais les hommes, dis-je, je sais combien la plupart sont méprisables. Est-ce une raison pour me rendre malheureux moi-même, en leur témoignant mes sentiments et m'attirant leur haine ? Mais non, oublions plutôt ce que j'ai appris à cet égard. Ce n'est qu'une bienveillance mutuelle qui embellit les relations des hommes. Dissimulons plutôt et témoignons-leur la nôtre afin d'obtenir la leur. Nous ne serons francs ni les uns ni les autres, mais nous serons plus heureux que de nous regarder continuellement du mauvais côté. Laissons-nous vivre enfin. » C'est ce que je fis, me contentant de garder pour moi seul le fruit de mes observations et me garantissant le plus que je pouvais des impressions de mépris qu'elle m'avait laissées pour l'espèce humaine. Voudrais-je prétendre par là que je n'ai jamais rencontré d'hommes bons et vertueux et que je me sois cru supérieur aux autres? Non, sans doute. J'ai rencontré souvent des hommes qui avaient de rares et précieuses qualités, des hommes honnêtes et délicats, des hommes attachés à leurs devoirs et pratiquant la vertu, ce que vous appelez la vertu, vous autres du moins. Quant à moi, je ne connais qu'une seule vertu, mais elle vaut toutes les autres, c'est la sensibilité. Or, combien peu d'hommes la possèdent? Combien peu d'hommes compatissent aux misères d'autrui, autrement qu'en théorie et dans de beaux livres? Chez la plupart, quelle dureté, quelle indifférence pour tous les maux qui ne les touchent pas. Combien en est-il qui n'ont d'autres mots à donner à celui qui leur tend la main que ces mots jetés du haut de leur morgue stoïque? Travail, paresseux! Il ne faut pas encourager le vice et l'oisiveté, disent-ils pour excuse. Vice tant que vous voudrez. Si le vice ne devait pas manger, seriez-vous bien certain de dîner aujourd'hui, riche si froid et si orgueilleux, qui ne savait même pas placer un bienfait sans humilier, et qui le fait même à dessein pour montrer une supériorité que vous ne devez qu'à votre or? Une fois ce parti adopté, je changeai tout à coup de manière et devins un véritable jeune homme. Je me livrai à l'expansion et à la franchise qui étaient mon caractère naturel. Je cherchais à me faire des amis et j'y réussis. Un de ceux que j'affectionnais le plus est mort il n'y a pas longtemps. Tant que les circonstances ne m'ont pas séparé de lui, il a été le dépositaire de mes plus secrètes pensées. Il me connaissait bien et m'aimait, j'ose le dire. J'en ai eu beaucoup d'autres à cette époque qui existent encore aujourd'hui. Leur amitié a fait le charme de cette partie de mon existence. J'ai gardé d'eux un bien doux souvenir. Puisse-t-il en être de même de leur côté? Puisse-t-il ne pas confondre leur ami de cette époque avec celui qui s'est acquis une si triste célébrité? J'ose l'espérer, car depuis ma condamnation, j'ai reçu des marques bien précieuses de l'intérêt de quelques-uns, et surtout avant mon jugement, de la part d'un de ceux que j'ai toujours le plus aimé et estimé. C'est l'un de trois à qui j'ai adressé ma chanson intitulée « À mes amis ». J'ai ri de pitié, en vérité, lorsque j'ai su qu'un docte phrénologue m'avait fait dire que je n'avais jamais eu tant d'amis et que je ne croyais pas à l'amitié. À l'amitié des hommes de 30 ans, non. Mais à ces amitiés de jeunesse, oh oui, j'y crois, et avec ferveur. Je serais bien ingrat si je n'y croyais pas. Oui, je l'ai dit et je le répète. Ce n'est que dans la jeunesse que l'on ressent et que l'on comprend ces affections générales, ce dévouement que l'on ne conserve pas longtemps, il est vrai. On s'en dépouille lorsque, jetant un œil inquiet dans l'avenir, on cherche à se faire une position dans le monde. Alors naît l'égoïsme. Alors seuls quelques vieux bons amis de jeunesse peuvent encore compter sur le cœur de quelques-uns. Mais n'attendez rien des nouvelles liaisons formées sous de nouveaux auspices. L'amitié n'est plus qu'un vain nom, un égoïsme de plus, parce que chacun espère trouver un avantage dans ce commerce et cherche à prendre l'autre pour dupe. Mais en vérité, le monde serait bien à plaindre, bien malheureux si l'on ne pouvait ajouter foi à un cœur de 20 ans. Je n'apportais dans mes relations sociales qu'un défaut qui pourtant atteignait rarement mes amis. C'était un esprit mordant dont je n'ai jamais pu me corriger et qui m'a nuit dans l'esprit de beaucoup de personnes, sans toutefois me faire d'ennemis déclarés, car je ne poussais jamais cette raillerie à l'excès. Si quelques traits de satire m'échappaient parfois contre mes amis, c'était pour ainsi dire malgré moi et toujours en leur présence. Mais je ne pense pas avoir jamais eu de véritables ennemis, si ce n'est dans les prisons, et je me souviens de n'avoir manqué que rarement l'occasion d'obliger quelqu'un, même à mes dépens, et souvent sans le connaître. Mon père, trouvant au bout de quelques mois que ma pension lui coûtait trop cher, et jugeant qu'il me nourrirait chez lui à meilleur compte, me fit revenir à la maison. Ce furent de nouvelles vexations. Enfin, un beau jour, n'y tenant plus et à la suite d'une discussion orageuse avec mon père, je partis de la maison comme un furieux en déclarant que je n'y remettrais les pieds de ma vie. Cela ne m'empêcha pas de retourner chez mon avoué, assez embarrassé de la manière dont je me tirerais d'affaire pour vivre. Heureusement, le lendemain, mon frère vint me voir et m'apporta de l'argent. Ma mère l'avait envoyé après avoir obtenu l'approbation de mon père. Ce fut une grande faute. Le moment était venu, ou jamais, de montrer, sinon de la sévérité, du moins de la fermeté, et de ne pas revenir à moi tout d'abord. Un enfant qui s'exile de la maison de son père ne renonce-t-il pas dès lors à sa protection et à son assistance? Si l'on m'eût laissé livrer à moi-même, j'eusse été bien attrapé, mais c'eût été un grand bonheur pour moi. Avec le caractère ferme et entier que je m'étais fait, je n'aurais pas plié. J'aurais pris un parti quelconque et me serais habitué de bonne heure à ne compter que sur moi-même. À ce moment-là, je n'eusse pas fait de bassesse. Je n'aurais jamais voulu déshonorer ma famille, ne fût-ce que par rapport à mes sœurs. Cet exil ne dura que 3 mois. À l'occasion du jour de l'an, je rentrai à la maison. À partir de cette époque, la répugnance que ma mère avait pour moi commença à diminuer de jour en jour et à faire place à une affection qui est allée toujours en augmentant et dont elle ne s'est jamais départie depuis. Je lui vouais aussi tout mon amour, mais il n'y eut que cela de changé. Le pli était pris pour tout le reste. Une chose étonnante, c'est que ma mère, qui ne m'avait jamais enfant, ne me donna son amitié que lorsque je fus devenu homme au physique. D'où j'ai conclu que ce qui lui déplaisait le plus en moi, c'était un air maussade que j'avais pris d'elle par suite de mes premières impressions. Elle fut désagréablement surprise lorsque, après une absence de 3 mois, elle me vit revenir avec un air ouvert et dégagé que je devais goûter dans la société de mes amis. Je dus aussi peut-être le retour entier de son affection à une autre circonstance. J'avais contracté l'habitude, comme on l'a vu, de voler à la maison d'après le conseil de mon frère et pour ainsi dire pour son compte. À mon retour de Chambéry, mon frère était déjà employé dans le commerce de mon père et jouissait de toute sa confiance. Il n'avait plus besoin de moi pour se procurer de l'argent. Aussi, lorsque je voulus me remettre à l'œuvre pour mon propre compte, il fit tout ce qu'il put pour mettre ma mère en garde contre mon adresse. C'était tout clair. Il n'y avait plus rien à gagner pour lui. Je fus surpris sur le fait 2 ou 3 fois. Je reçus de graves reproches et je conviens que je les méritais. Mais ce qu'il y eut de plus beau, c'est que mon frère fut le premier à se moquer de moi et que j'eus la générosité de le laisser faire sans me porter comme son accusateur et faire retomber, comme je l'aurais pu, toute la honte sur lui. Peut-être pensait-il, comme d'autres l'ont cru dernièrement, que je n'avais pas de preuves pour le convaincre. Il se trompait, j'en avais d'évidentes, sans qu'il puisse en douter, parce qu'alors, comme depuis, j'ai toujours pris mes précautions et je me suis mis en règle pour n'être jamais en reste avec ceux qui cherchaient à me nuire. Si je ménageais mon frère, c'était parce que je craignais de porter un coup terrible à mes parents. Ils aimaient beaucoup mon frère, c'était une vieille habitude chez eux, tant il aurait fallu peut-être se défaire en le connaissant mieux. Surtout mon père, qui n'aurait pas entendu raillerie à ce sujet. Ma mère était beaucoup plus indulgente. Aussi, ne voulant pas tout à fait laisser jouir mon frère de l'impunité après quelques précautions, je dévoilais à ma mère tout ce qui s'était passé entre mon frère et moi. Je savais bien qu'elle ne prendrait pas la chose au tragique. Je lui administrais des preuves sans réplique. Elle fut touchée de ma générosité et me pria même beaucoup de ne pas en parler à mon père. Je lui le promis et tins parole, de sorte que mon père a toujours ignoré cette particularité et ne s'est jamais douté que son fils bien-aimé avait été le premier à le voler. Lorsque ma mère voulut en parler à mon frère et lui en faire quelques reproches, il lui répondit brusquement qu'elle lui rompait la tête. En regagnant une part dans l'affection de ma mère, par une espèce de compensation, je m'attirais de plus en plus l'aversion de mon père. J'eus sans doute beaucoup de tort dans cette circonstance, mais les premiers pas étaient faits, il ne pouvait plus en être autrement entre nous deux. Cependant, c'est un grave reproche que j'ai à me faire aujourd'hui. La cause de ces nouvelles dissensions domestiques fut la politique, cette éternelle pomme de discorde qui dévore les familles les mieux unies et les amitiés les plus anciennes et les plus éprouvées. On a vu quel entêtement et quel fanatisme mon père apportait dans toutes ses opinions. En quelque sorte plus catholique que le pape, il voulait encore être plus royaliste que le roi. C'était Louis XVIII alors, et mon père le maudissait tous les jours de grand cœur pour n'avoir pas fait perdre à son arrivée tous les Jacobins, voire même les Bonapartistes. La restauration venait d'avoir lieu, il n'y avait pas longtemps. À ce moment, je n'avais aucune opinion autre, ni aucune idée politique. Elle n'avait laissé qu'une impression, cette bienheureuse restauration, celle du spectacle des femmes les plus distinguées de la ville, agitant leurs mouchoirs blancs sur les têtes de nos éternels ennemis, et s'enrouant à crier « Vive les Autrichiens! Vive les Prussiens !» Assurément, cette époque-là fut une fièvre, un délire. Tout le monde perdit la tête, et beaucoup furent honteux des excès auxquels ils s'étaient portés, lorsqu'ils eurent pris le temps de réfléchir. Toutes ces scènes ne m'avaient pas échappé, mais n'avaient encore influé en rien sur ma manière de voir. Je me serais volontiers passé d'avoir une opinion, mais c'était une chose indispensable en 1818. On n'aurait osé se montrer nulle part sans cela. J'adoptai donc celle qui me parut la moins ridicule. Je devins libéral constitutionnel. Cependant, il faut dire la vérité, j'aurais eu beaucoup de peine à me faire martyr de mon évangile politique. Je n'y mis aucune chaleur ou aucun emportement, et je riais dans ma barbe de tous ceux qui prenaient ces jongleries au sérieux. Quant à moi, je n'aurais pas donné un cheveu pour le triomphe de mon opinion, sur laquelle même je me permettais souvent de lâcher quelques traits de satire, au grand scandale des fervents. Toutefois, sans jamais faire aucun acte matériel, je me laissais engager dans la route que je tenais plus avant que je n'aurais voulu, afin que l'on fût bien persuadé que je ne partageais pas les opinions politiques de mon père. Je m'abstins avec soin de ne jamais rien manifester de ma nouvelle profession de foi en sa présence, simplement pour ne pas lui faire de peine. Mais de bonnes langues ne tardèrent pas à lui en donner avis. Alors, mon Dieu, la maison fut pour moi un véritable enfer. Tous les jours, c'était de nouvelles discussions que mon père élevait avec moi. Quand je ne lui répondais pas, il entrait en fureur, Quand je le contredisais, oh, c'était encore pis. Je vous laisse à penser comme mon père devait me ménager, lui qui s'était brouillé avec ses meilleurs amis, tous bons royalistes, mais qui, pour n'être pas assez chaud, était traité par lui de jacobin. Si la politique n'était pas parfois une chose si sérieuse et qui entraîne quelquefois après elle tant de calamités, il n'y aurait vraiment qu'à en rire de pitié. Dupes et fripons, voilà en deux mots comment peut se résumer toute la politique passée, présente et future. Je ne m'en suis jamais mêlé qu'à mon corps défendant, parce qu'autant que possible, je n'ai mal joué aucun de ces deux rôles. Après avoir passé près d'un an dans une étude d'avoué, j'entrai chez un notaire où je demeurai à peu près 6 mois, puis dans une maison de banque dans laquelle j'ai travaillé à peu près 2 ans. Je me dégoûtais de cette maison, quoique je fusse chez de très braves gens, par une circonstance qui mit mal à mon aise. Il n'y avait absolument que le garçon de recette et moi qui allions surporter les lettres à la poste. Un jour, 2 billets de 1 000 francs étaient renfermés dans une lettre adressée à une maison de Paris. Je n'ai jamais pu me rappeler qui de moi ou du garçon avait été chargé des lettres ce jour-là. Quoi qu'il en soit, au bout de quelques jours, nous reçûmes avis de Paris que les billets de banque n'étaient pas parvenus. Quelque certain que je fusse de mon innocence, j'aurais répondu au moins autant de celle du garçon, qui était un fort honnête homme. Dans cette position, je sentis que l'on ne pourrait jamais s'empêcher de porter quelques soupçons sur moi. Et je m'aperçus bientôt que j'avais deviné juste. Dès lors, je ne m'appliquais qu'à me faire donner un congé en aussi bonne forme que possible, pour quitter une maison où je ne pouvais plus que déplaire. Oh, je suis bien certain que lorsque mon patron aura entendu parler de mes premières escroqueries, il n'aura pas manqué de penser qu'il ne s'était pas trompé. Et pourtant, rien n'est plus faux. À ce moment-là, ce ne sont pas 2 000 francs qui m'auraient tenté. D'ailleurs, si cela était vrai, pourquoi n'en conviendrais-je pas aujourd'hui? J'avoue certainement des faits qui ne sont pas plus à mon honneur. Il m'était déjà arrivé une affaire à peu près pareille, mais encore plus désagréable, en ce que j'avais été accusé directement. C'était chez le notaire dont j'ai parlé. 8 jours après en être sorti, je reçus une lettre du maître Clerc, qui était bien le plus idiot de tous les hommes, la tête la plus légère en même temps, et il me demandait compte de 10 francs, qu'il prétendait m'avoir remis pour lever un certificat d'hypothèque. Je ne savais seulement pas ce qu'il voulait me dire. La lettre tomba entre les mains de mon père, qui me demanda des explications. Je lui répondis que j'ignorais entièrement ce dont il était question, que le maître Clerc n'avait qu'à venir à la maison pour s'expliquer avec moi, que, du reste, je n'étais pas encore un voleur. « Oh, celui qui vole ses parents, me dit mon père, peut voler partout. » Il ne croyait pas si bien dire. Il ne me manquait qu'un point pour être tout à fait un voleur, c'était la nécessité et la faim. Aussi, vous allez voir quand elles vont venir. Je puis bien attester ici une chose dans toute la sincérité de mon cœur. Sans le besoin, malgré les principes assez accommodants que je m'étais fait, j'aurais été le plus honnête homme du monde et le plus philanthrope. Mais j'ai toujours eu un grand défaut, c'est celui d'être sans ordre et sans règle dans mes dépenses, et d'avoir horreur du vide dans ma poche. J'ai presque toujours dépensé au-dessus de mes moyens, mais jamais par ostentation ni par orgueil. Ce qu'il y a toujours de bien singulier, c'est que mon père, l'homme le moins capable d'apprécier et de juger un caractère, et surtout le mien, m'ait toujours fait des prédictions sinistres et qu'elles aient toujours été accomplies. Après être sorti de chez mon banquier, je vins à Paris, où je m'occupais un peu de littérature et de politique. J'envoyais des articles à différents journaux, mais sans en tirer aucun produit. C'est à cette époque que je fis jouer un vaudeville, qui n'était pas tout à fait de moi, mais auquel j'avais fait les couplets. Il m'avait été remis à mon départ par un de mes amis. Je le portais chez un auteur assez en vogue en ce moment, mais qui est à peu près oublié aujourd'hui. On voit bien que ce n'est pas de M. Scribe que je veux parler, quoique certaines personnes aient affecté de le croire. Notre vaudeville fut joué et eut même beaucoup de succès. On me dispensera de dire le nom de mon collaborateur. Je pense que je ne lui ferai pas plaisir. Quant au vaudeville, pour signe de ma participation, je n'y avais apposé qu'une fausse lettre initiale. Après avoir mené joyeuse vie de garçon pendant quelque temps, l'envie me prit d'entrer au service. Je m'engageais sous un faux nom. Après diverses mauvaises affaires, j'en eus une si fâcheuse que je désertai de suite. Je revins à Lyon. On crut que je venais de faire un voyage. Personne n'avait soupçonné même la folie que j'avais commise. Je n'avais passé que quelques mois au régiment. J'avais d'abord senti que ce genre de vie n'était pas fait pour moi. D'ailleurs, j'avais agi là contre tous mes principes, et ce ne fut pas la dernière fois. Il n'était pas dans mon caractère de faire une abnégation si complète de mes volontés. Et si je me suis encore engagé une seconde fois, on en connaîtra le véritable motif. Je devins, quelque temps après, commis voyageur pour les liqueurs. Les affaires devinrent mauvaises et si difficiles que je donnai ma démission et revins à Paris. Notez que lorsque je menais ainsi, sans aucune espèce de scrupule, une vie si vagabonde, je croyais sincèrement hériter un jour de plus de fortune qu'il ne m'en fallait pour vivre tranquille et m'adonner à ma chère littérature. J'étais bien excusable. Je revins encore une fois à Paris. Je n'avais pour tout avoir que 1 000 francs. Je fus au jeu, je gagnai à peu près le double. J'allais faire ensuite une tournée en Angleterre et en Écosse. J'y dépensais beaucoup d'argent, mais je jouais, j'étais heureux. Je revins encore à Paris avec 1 500 francs. Le soir même de mon arrivée, je fus au jeu, et à 11 heures, je n'avais plus d'argent. J'écrivis à mon frère, qui était alors comme le maître de la maison, pour lui faire part de ma position et le prier de m'envoyer quelques fonds. Il me renvoya de la morale. Je lui réécrivis, courrier par courrier, que s'il ne m'envoyait pas de l'argent, je saurais m'en procurer d'une manière qui ne lui ferait pas plaisir. N'ayant pas de réponse, je fus chez ma tante qui me prêta 100 écus. Au bout d'une heure, le 30 et 40 avait tout englouti. Je retournai chez ma tante qui eut encore la bonté de m'avancer 100 autres écus. Pour cela, je ne fus pas si longtemps. Dans 2 coups, ce fut fini. Honteux de retourner chez elle, j'empruntai 10 francs à un de mes amis avec lesquels je partis pour Lyon, ayant en portefeuille de jolies fausses lettres de change. C'était mon coup d'essai. J'en semai à peu près pour 10 000 francs. Mais il n'y eut que les 2 premiers billets, un de 500 et un de 1 000, qui portaient mon nom et qui pouvaient me causer de l'inquiétude. J'arrivai à Lyon où je convertis tout en or immédiatement. Le soir même, je rencontrai mon frère au spectacle et je lui rendis compte de ce que j'avais fait. Mon frère pâlit du calme et de la tranquillité avec laquelle je lui détaillais ma belle expédition. Je lui laissai l'adresse des 2 billets signés de mon véritable nom au cas où il voulût les retirer pour son honneur. Quant aux autres, je ne craignais rien, on ne pouvait arriver jusqu'à moi. Après avoir passé quelques jours à Lyon, comme pour prouver que je n'avais pas peur d'être arrêté, je partis pour la Suisse, Je fus à Genève et de là en Italie. C'était là que je devais commettre mon premier meurtre. Étant à V, je fis connaissance avec un Suisse qui était de Genève et qui me parla de beaucoup de personnes que j'y avais connues. Il ne logeait pas au même hôtel que moi. J'avais laissé une personne de confiance en France à C, chargée de m'avertir de la tournure que prendraient mes affaires. Mais de crainte qu'à la poste on ne remarquât mon abstresse, je lui marquai de m'écrire sous le couvert de l'ami que j'avais alors à V. Mon correspondant le fit d'une manière si maladroite que cet individu dut croire que la lettre était pour lui. Il l'ouvrit donc et la lut tout entière. Elle était assez amphibologique pour qu'il ne pût pas savoir au juste de quoi il s'agissait, mais assez claire pour lui donner la certitude que j'avais quelque chose à démêler avec la justice. Après m'avoir apporté ma lettre, il fut rendre compte à l'autorité de ce qu'il avait lu. Je lui avais rendu des services d'argent et d'autres natures. Sa conduite m'indigna. J'en fus informé par un des secrétaires que mon dénonciateur ne se doutait pas que je connusse. Je ne fis rien paraître, mais le même jour, je l'engageai à venir dîner hors de la ville. Je m'étais muni d'une paire de pistolets de poche. Après le dîner, hors de la ville, nous fûmes faire un tour dans la campagne. Nous nous enfonçâmes dans un petit bois. Lorsque je vis que nous étions tout à fait isolés et hors la portée de tout le monde, « Monsieur, lui dis-je, vous vous êtes conduit comme un lâche. Vous avez abusé d'un secret que vous avez obtenu par une indiscrétion pour me prendre, moi qui n'ai eu que de bons procédés à votre égard. Vous allez m'en faire raison. Je tirai alors mes deux petits pistolets. Mon homme pâlit et voulut se justifier. N'ajoutez pas le mensonge à la perfidie, lui dis-je, je sais tout. Je lui contai alors tous les détails de son rapport, de manière à lui faire voir que j'étais bien au fait. Alors il me pria de l'excuser en ajoutant qu'il en était assez fâché, qu'il avait été engagé à cette démarche par le maître de son hôtel. C'était là justement un motif de plus pour m'exciter à la vengeance, en me prouvant que d'autres que lui connaissaient cette affaire et par sa faute. Défendez-vous, lui dis-je, je n'entends pas de raison. Voici deux pistolets. Il y en a un de chargé, un autre qui ne l'est pas. Choisissez et tirons ensemble. Notre homme se récria que c'était un véritable assassinat et qu'il ne se battait pas ainsi. Non, lui dis-je, vous ne voulez pas décidément. En disant ces mots, je pris dans la main droite le pistolet chargé et que j'avais remarqué. Une fois, non? Deux fois, non? Trois fois? Ah, j'en suis fâché pour vous, dis-je. Et je lui lâchai le cou au beau milieu du visage. Je laissai le pistolet qui m'avait servi et j'emportai l'autre pour laisser planer des soupçons de suicide. Puis, après ce beau coup, je rentrai tranquillement à V. Je fus faire ma malle et partis le soir même. Je me dirigeai de nouveau sur Genève, où je passai quelque temps à manger le reste de mon argent. Là, il manqua de m'arriver la répétition de la tragédie de V. Je logeais au même hôtel qu'un Lyonnais qui était venu se réfugier à Genève après avoir fait banqueroute à Lyon. Il était sans ressources et prêt à être renvoyé de l'hôtel où il ne pouvait plus payer. Je vins à son secours et le tirai d'embarras. J'avais fait connaissance d'un faiseur d'affaires qui, sous la foi seule de mon nom, se décida à me confier pour une certaine somme de marchandises à crédit. La veille de mon départ, le jour où il devait me faire la livraison, il arriva encore une lettre pour moi à l'adresse de ce Lyonnais, qui en prit connaissance et fit immédiatement prévenir l'individu avec lequel j'avais traité pour le mettre sur ses gardes. J'étais pendant ce temps-là à Ferney à me divertir, ne pensant pas à ce qui m'attendait à mon retour. Je ne revins à Genève qu'à l'heure du rendez-vous qui avait été fixé la veille. Mais je fus bien sot lorsque mon homme m'apprit qu'il ne pouvait plus tenir le marché et que j'eusse à lui remettre ce que j'avais déjà reçu en acompte. Il n'y avait pas à balancer, il pouvait me faire arrêter. Je m'exécutai de bonne grâce et fis de nécessité vertu. Je sus encore à qui j'étais redevable de ce service. C'était mon bon camarade qui, pour me payer de l'argent que je lui avais prêté, était allé lui porter la lettre de mon frère dans laquelle il était question de mes faux. Mais il m'apprenait en même temps qu'ils avaient été payés et retirés. Je partis à la minute de Genève et revins à Lyon. Sans ce départ précipité, il est à croire que je me serais vengé de celui qui m'avait joué un si joli tour. Il reçut 50 francs de gratification qu'il avait exigé avant de parler. Je passai quelques jours à Lyon assez tristement. Je ne pouvais pas arracher un sou de la maison. Ignorant la position de mon père, je trouvais cela atroce. Cependant, j'avais contracté des obligations sacrées. Un de mes meilleurs amis m'avait prêté à peu près 600 francs, soit 1 500 sur 1 500 qu'il possédait. Il était de la classe de cette année et il avait besoin d'un prompt remboursement pour se procurer un remplaçant. Enfin, pendant que mon père ferait bien encore un sacrifice pour se débarrasser de moi, je lui fis proposer de payer cette dette et de donner quelque argent à la seule condition que je m'engagerais. Tout le monde ignorait mon premier engagement qui avait été fait sous un faux nom. Mon père accepta ma proposition et me fit dire qu'aussitôt que je lui présenterais mon acte d'engagement, il paierait. Mais je ne voulais pas m'engager à Lyon. Je voulais autant que possible que l'on ignorât ce que je serais devenu. Je partis avec 100 écus que ma mère me donna et me rendis à Grenoble. Ce fut la dernière fois que je vis ma mère. Ah, elle fut alors une bien bonne mère pour moi. Que de larmes elle versa en songeant l'avenir qui m'attendait. Quoiqu'il n'y ait pas bien longtemps qu'elle soit morte, je ne l'ai jamais revue depuis, et ça n'a pas été une de mes moindres peines. À Grenoble, suivant ma coutume, je commençai par dissiper le peu que j'avais avec quelques étudiants que je connaissais, avant de songer à m'engager. Puis, lorsque je n'eus plus que juste ce qu'il me fallait pour revenir à Lyon, je me décidai. Je choisis un régiment qui allait faire l'expédition de Morée. Une fois nanti de mon acte d'engagement, je revins à Lyon, le montrai à mon frère, afin qu'il pût en certifier à mon père la réalité. Car il y avait longtemps que nous ne nous trouvions plus en présence et que nous ne correspondions que par l'entremise de mon frère. Mon père, alors bien certain de me voir partir pour longtemps, paya ma dette et me fit remettre quelque argent pour faire ma route jusqu'à Montpellier, où était le régiment pour lequel je m'étais engagé. Arrivé à Valence, j'étais déjà à court, et je fus obligé de faire le voyage jusqu'à Montpellier, militairement, par étapes, la canne à la main. J'étais mis presque en fashionable. Tous ceux qui me voyaient passer sur la route s'arrêtait pour me regarder, cheminant tranquillement comme quelqu'un qui fait une promenade au bois de Boulogne. J'ai fait jusqu'à 18 lieues de pays sans m'arrêter, sans manger et sans me fatiguer, pendant les plus fortes chaleurs d'un été de Languedoc. Sous une apparence grêle et quoique peu doué de force physique, j'ai un tempérament des plus robustes. Froid, chaud, privation, excès dans tout genre, rien ne m'abat, et bien mieux, rien ne m'ôte ma sérénité. Il n'y a que les injustices et les vexations gratuites qui m'irritent et me font sortir du calme parfait dans lequel je vis habituellement. Je n'aime pas à souffrir, c'est vrai, mais je souffre pourtant ce que je ne puis empêcher avec fermeté et résignation. Je me plains que quand je crois avoir droit, et Si on ne me rend pas justice, je n'y songe plus après. J'arrivais à Montpellier où était mon régiment. Je n'avais contracté ce second engagement que par la nécessité et la force des circonstances, mais sans aucune conviction. J'avais déjà essayé de l'état militaire et j'avais pu me convaincre qu'il me convenait sous aucun rapport. Je ne cache pas qu'en rentrant, je n'avais d'autre intention que d'y attendre paisiblement la mort de mon père, qui me laissa la facilité de me livrer au genre de vie qui me convenait le plus. Je n'avais cherché qu'à me préserver de moi-même, à me mettre à l'abri de quelques catastrophes qui m'attendaient inévitablement dans le monde. J'avais donc résolu, tant que ma position ne serait pas changée, de rester tout à fait un être passif. C'était, à mon idée, la seule condition de bonheur dans ce nouvel état. Mais les injustices dont je fus encore la victime m'irritèrent et me dégoûtèrent entièrement. Oh, je ne citerai que la dernière, qui fut cause de ma désertion. Nous approchions de la fin de l'année et il s'agissait de régler le trimestre et les feuilles. Le major du régiment, s'apercevant que notre comptabilité était en retard, nous consigna tous au quartier, sergents-majors et fourriers. Le travail n'avançait pas davantage pour cela dans notre compagnie. Aussitôt que l'appel était fait, mon sergent-major s'habillait et sortait par la porte du quartier d'un autre régiment qui était dans la même caserne. Oh, c'était l'homme le plus paresseux du monde pour la comptabilité. Tous les soirs, lorsque je le voyais prêt à partir, je lui disais « Major, vous savez que nous sommes en arriéré, que je puis travailler seul, il faut collationner. Voulez-vous que nous fassions ce soir ?»« Bon, demain, me répondait-il. » Et il se sauvait. Il était certain que nous ne pouvions pas être en mesure. Il le sentait bien, aussi avait-il formé le projet de se tirer d'affaire à mes dépens. Le jour de Noël, et nous n'étions pas consignés ce soir-là, je dus faire un tour en ville et ne rentrer qu'à 3 heures après-midi. Je retrouvai dans notre chambre le sergent-major qui feignit d'être furieux et qui m'envoya à la salle de police pour n'être pas rentré plus tôt, sachant, disait-il, que nous avions l'ouvrage. J'obéis, et après avoir passé 1 heure à la salle de police et avoir réfléchi, j'envoyai un petit mot écrit au crayon à mon sergent-major pour le prévenir que s'il ne me faisait pas sortir de suite de la salle de police, je rendrais compte de sa conduite au commandant. Étourdi de cet avis et sachant que s'il ne prenait le devant pendant qu'il en était temps, il était perdu, il se paya d'audace et fut porter lui-même mon billet au commandant pour l'avertir que je le menaçais. Et de là, il fut chez le major pour lui conter l'affaire et le prévenir contre moi. Il lui dit qu'il était impossible que son trimestre fût réglé parce que je ne voulais rien faire et que je lui laissais tout l'ouvrage, que j'étais toujours à courir les champs. Il le pria de lui donner quelqu'un pour me remplacer. Le commandant vint me trouver à la salle de police et me dit « Vous avez porté une accusation contre votre sergent-major. Il faudrait que vous le prouviez. » « Oh, volontiers, commandant, lui répondis-je. Ce sera comme vous voudrez. Et déjà, sans sortir d'ici, je puis vous fournir un commencement de preuve. Allez visiter tous les hauts livres d'aujourd'hui même. Et vous verrez que tout ce qui est fait est de mon écriture, et qu'il n'y a pas un mot de celle du sergent-major. » Il me dit qu'il verrait cela et sortit. Le lendemain, il revint et me tint le même propos que la veille. Seulement, il y mit un peu plus de colère et me dit « Il faudra que vous prouviez ce que vous avez avancé. »« Oh, volontiers, répondis-je encore, quand vous voudrez. » Et à ces mots, il s'emporta tout à fait. « Mais je vous trouve bien hardi de demander à faire preuve d'une dénonciation contre un de vos supérieurs. C'est un véritable acte d'insubordination et vous mériteriez de passer au conseil. Mais, commandant, lui dis-je tranquillement, c'est vous qui me l'a demandé, la preuve. Puis-je vous la refuser, sans passer pour un calomniateur ? Oh, c'était, répondit-il niaisement, pour m'assurer que jusqu'où vous pousseriez l'effronterie. Vous êtes condamné, ajouta-t-il, à 15 jours de cachot et 1 mois de salle de police. Et il sortit. Mon sergent-major vint me narguer à la salle de police. Je reçus ses plaisanteries de bonne grâce. Je ne m'emportais nullement. Mais je puis assurer que si j'avais eu alors mon sabre, je lui aurais passé au travers du corps sans m'emporter. J'ai cherché pendant longtemps à me venger de lui. Je n'ai jamais pu saisir l'occasion de le faire à coup sûr. On se doutait trop de la haine que je lui portais. Et s'il lui était arrivé quelque accident, ça aurait été naturellement sur moi que les soupçons se seraient portés. Or, se perdre en se vengeant, c'est l'affaire d'un sot. Lorsque je vis qu'il n'y avait rien à espérer de ce côté-là, je me décidai à déserter, ce que je fis au bout de quelque temps. Je me dirigeai sur Lyon, ne me doutant en aucune manière du coup qui m'y attendait. En arrivant, je fus tout droit à la maison. Je n'y trouvais personne. Alors je demandai au portier, qui me répondit qu'on était parti depuis quelques jours, mais qu'il ne pourrait nullement me dire de quel côté on était allé. J'avais une tante à Lyon, je fus la voir. Je lui appris que je venais de déserter du régiment et que j'allais rejoindre mon frère pour m'entendre avec lui et prendre quelques mesures. « Ah, tu as bien choisi ton temps, » me répondit-elle de mauvaise humeur. « Ton père est parti avec ton frère et toute la famille pour la Belgique. Il a fait une banqueroute qui me ruine, moi et ma sœur, et quelques-uns de ses amis qui lui ont confié des fonds. » Je jugeais inutile d'en entendre davantage. Je sortis pour réfléchir à ce que j'avais le mieux à faire. En me rappelant certaines circonstances, cette nouvelle ne m'étonna pas beaucoup. La seule chose qui me paraissait surprenante, c'était que mon père, pendant toute sa vie, n'avait jamais manqué de déclamer contre les banqueroutiers. Et certes, il était de bonne foi. Ce qui prouve combien il est difficile de conformer sa conduite à ses principes lorsque les principes sont resserrés dans un cercle trop absolu. Mais ce qu'il y avait de plus beau, c'est que mon père ne faisait presque rien perdre aux étrangers. C'était à ses parents et à ses amis qu'il avait donné la préférence. Je ne pouvais pas rester à Lyon. J'y étais trop connu. D'ailleurs, je n'avais presque plus d'argent. Je ne possédais pas non plus d'autres habillements que mes effets militaires. Et je savais que j'avais été signalé. Je fus trouver ma bonne Marie à Francheville. Elle me reçut comme si c'était son propre enfant. Je vécus chez elle pendant quelques jours. Enfin, elle fut trouver ma tante à Lyon, qui lui remit quelque argent pour moi, avec lequel j'achetais des habits bourgeois, et je partis pour Paris où je savais que je serais beaucoup plus en sûreté. En arrivant, je fus chez mon autre tante, qui me reçut aussi assez mal. La perte qu'elle essuyait dans notre désastre l'avait d'autant plus indisposée contre moi qu'elle m'attribuait une partie de sa perte. En effet, il n'y avait pas longtemps que, me trouvant à Paris, je l'avais engagé, sur la demande de mon frère, à placer 20 000 francs chez mon père. Et ces 20 000 francs se trouvaient presque entièrement perdus. J'écrivis à ma pauvre mère à Bruxelles. Elle me fit passer 500 francs. Avec cet argent, je fus au Havre dans l'intention de passer en Amérique. Mais j'avais trop compté sur quelques circonstances favorables et imprévues. Je m'aperçus bientôt que ce n'était pas avec 500 francs que je pouvais entreprendre un pareil voyage. Je revins encore une fois à Paris. Et au bout de quelques jours, je me trouvais au bout de mes pièces, sans ressources, et sans savoir de quel côté me tourner. Je cherchais des places, des emplois de tous les côtés, sans rien découvrir. J'essayais de travailler pour quelques journaux, comme je l'avais fait quelques années auparavant. On avait bien reçu mes articles lorsque je n'avais exigé aucune rétribution. Il n'en fut pas de même de mes articles à payer. Voilà bien ce que j'avais prévu, me dis-je. Gare à toi, quand tu n'auras plus rien, la société te repoussera de tous les côtés. Cela m'arrivait à la lettre. Enfin, j'en fus réduit, au bout de quelques jours, à être sur le point de mourir de faim. Dès ce moment, je devins voleur et assassin d'intention.